Quand on regarde de nouveau et regardons dans Tite, l'épître de Paul à Tite, le chapitre 2, et nous allons reprendre à partir du verset 9 pour continuer jusqu'au verset 15. Je voudrais vous parler du Dieu Sauveur. Ça, c'est le titre. Le Dieu Sauveur. Ici, Paul donne des instructions des serviteurs. Il a commencé en parlant des vieillards, des femmes, aussi des jeunes femmes et des jeunes hommes, comment l'Évangile doit affecter leur vie une fois que Christ est révélé dans le cœur. Ce n'est pas simplement d'embrasser l'Évangile avec le cerveau, comme si c'est une information à recevoir, mais comme c'est en réalité la parole de vie. Et donc, une fois que l'Esprit prend cet Évangile du Christ et révèle cet Évangile dans le cœur, cet Évangile aura son effet dans la marche et dans la vie de ceux qui sont les objets de cette grâce. Et puis ça touche les serviteurs, comme nous avons vu la dernière fois dans le verset 9. Les serviteurs, il faut les exhorter à être soumis à leur maître. Cela nous montre que recevoir l'Évangile n'est pas quelque chose d'automatique, que une fois l'Évangile est révélé, voilà, notre marche est parfaite. C'est le contraire. Nous continuons à être des pécheurs, des bravés, et il faut l'enseignement dans cet Évangile. Il faut que nous croissions dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. Donc c'est pourquoi cet écrit exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, ne rien dérober. Faut pas dire que non, puisque je suis déjà pardonné et justifié devant Dieu, donc je peux vivre de n'importe comment. Non, il faut leur apprendre à rien dérober de leur maître, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, non seulement à Dieu, à cause de sa grâce, mais envers ceux de ce monde, qu'il soit converti ou pas, démontrer cette grâce à travers nos vies. Notez bien, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Voilà la manière que Dieu est décrit comme le Sauveur. Et nous pouvons remarquer même depuis le début de cette étude, combien de fois Dieu nous est présenté dans cette épître comme le Dieu Sauveur. Ça, c'est très important. Puisqu'il y a un Dieu aujourd'hui qui est prêché, qui veut bien sauver. Voilà comment les prédicateurs l'annoncent. Il désire vous sauver, mais hélas, vous devez contribuer votre volonté et vous devez prendre le premier pas afin que Dieu puisse vous sauver, afin que Dieu puisse vous pardonner, afin que Dieu puisse vous sanctifier, afin que Dieu puisse vous justifier. Voilà comment ce petit Dieu est prêché. Mais notez bien ici, c'est le Dieu, en majuscule, notre Sauveur, le Dieu Sauveur, comme dans chapitre 1 et le verset 4. Paul écrit à Tite disant, mon enfant légitime, notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est le seul moyen que la grâce est donnée. C'est à travers le Dieu, et c'est le Dieu trinitaire, trois personnes dans un seul Dieu, une seule nature, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une grâce qui est révélée à travers l'Esprit, mais ça vient de la part de Dieu le Père. Le mot « être » là signifie même de Jésus-Christ notre Sauveur. Il n'y a pas de grâce qui est donnée aux pécheurs en dehors de Jésus-Christ et ce qu'il a accompli comme le Sauveur. Et puis, dans le verset que nous avons considéré ici dans le verset 10, une fois encore, c'est selon la doctrine ou bien l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Encore dans le verset 13, nous allons voir cela, parlant de la venue du Christ dans ce monde, qui il est le Dieu Sauveur. Donc, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire, notez, du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi il est le grand Dieu? Même le Sauveur en Jésus-Christ, c'est parce que c'est Dieu qui sauve du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas un petit Dieu que nous annonçons, espérant que les gens vont vouloir bien l'accepter. Non, nous annonçons le grand Dieu, même le Sauveur, celui qui, selon sa volonté éternelle, a désigné les pécheurs qui doivent être sauvés, et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde accomplir tout ce qui est nécessaire pour leur salut. Et que l'Esprit maintenant vient et révèle dans les cœurs de ceux pour qui Christ est venu dans le monde. Mais voilà comment, à travers cette épître, nous voyons ce Dieu représenté, le Dieu Sauveur. Et quelle joie pour nous de pouvoir annoncer un tel Dieu. Et pour moi, toute une joie de le déclarer tel qu'il est révélé ici dans les Écritures. Maintenant, dans le verset 11, parce que mon texte est à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, voilà comment est représenté ce Dieu et la grâce qui vient de lui et de sa main à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est écrit dans le verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ici, nous voyons que la grâce n'est pas simplement une doctrine qu'on a enseignée. La grâce n'est pas simplement une information ou bien une idée, une théologie que nous annonçons. Mais ici, c'est lié à la personne de Christ, car la grâce de Dieu est notée source du salut pour tous les hommes. Ici, comme d'ailleurs, quand la Bible parle de tous les hommes, ce n'est pas tous les hommes sans exception, parce que si tel était le cas, tous les hommes sans exception seraient sauvés, parce que là où Dieu fait grâce, il sauve. Mais c'est dans un sens ethnique que cette grâce de Dieu est le source du salut pour tous les hommes sans distinction. Voilà comment il faut comprendre cela. Cela veut dire que ça soit juif ou grec, que ça soit homme ou femme, que ça soit riche ou pauvre, sans distinction. Dieu ne sauve pas basé sur quelque qualité que ce soit dans l'homme. Mais c'est lui qui est cette source du salut pour qui que ce soit que Dieu sauve, quelle que soit sa catégorie dans la société. S'il y a un pécheur qui est sauvé, c'est grâce à Dieu. Et cette grâce provient de lui, source. Quand on parle de la source, ça veut dire, c'est lui qui ordonne ce salut. Et c'est lui qui sauve. Mais qui a été manifesté? Comment est-ce que la grâce de Dieu a été manifesté envers les hommes pécheurs de ce monde que Dieu a choisi bien avant de créer le monde. Il a ses élus qu'il a choisis pour ce salut de toute langue, de toute tribu, pour qui, de tout peuple, pour qui Christ est venu dans ce monde et payé la rançon de ce peuple-là. Ce n'est pas une grâce qui est restée lointaine, mais qui est venue, a été manifestée. Cela démontre la nécessité pour que Dieu manifeste cette grâce envers des pécheurs. Autrement, on ne pourrait jamais le connaître. Nous sommes dépravés de nature. Mais ça a été manifesté comment? Dans la chair, d'abord. Dieu est venu dans la chair. Ça, c'est un grand mystère que Dieu lui-même est venu dans la chair et il a pris chair pour habiter parmi les pécheurs qu'il est venu sauver et il est venu les sauver. Il n'est pas venu pour chercher à sauver ces pécheurs, mais il a été manifesté en chair afin de effectivement sauver ce que le Père lui a donné. Et c'est cette grâce, alors, en Jésus-Christ, que nous lisons dans le verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc voilà comment la grâce de Dieu ne nous laisse pas vivre une vie de péché ou bien de nature pécheresse selon cette chair. Donc c'est cette grâce qui nous a été manifestée et c'est cette grâce qui nous enseigne comment nous devons marcher dans ce monde et à renoncer à l'impiété. Cela veut dire renoncer à tout ce qui est contraire à la piété révélée en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est venu payer notre dette. Et nous ne sommes plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. Et au convoitise mondaine, cela ne signifie pas que nous n'aurons pas ces convoitises mondaines. Ces convoitises restent toujours en nous, en tant que pécheurs. Mais ici, c'est écrit là où cette grâce de Dieu est manifestée, nous ne vivons plus selon ces convoitises comme auparavant. Bien sûr, il y a dans cette chair toujours cette lutte de se laisser emparer par ces convoitises mondaines, mais c'est l'esprit qui nous retient. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont ce Dieu sauveur, qui les a sauvés, non seulement des conséquences de leur péché, mais qui les empêche de continuer cette vie de péché comme auparavant, mais plutôt de vivre dans le siècle présent, c'est écrit selon la sagesse, la justice et la piété. Ces trois qualités que nous voyons ici sont des qualités que nous avons en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre sagesse. Nous n'en avons pas. Ce n'est pas que Christ est venu prononcer le salut et puis maintenant à nous de vivre nos vies de nous-mêmes. Non. Il continue, une fois révélé en nous, comme étant la sagesse et la justice et la piété de Dieu, il continue à nous garder, à regarder à lui seul comme notre sagesse et justice et piété. Voilà le témoignage de ceux qui appartiennent à Christ et qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Si on leur demande, mais d'où vient votre sagesse? de connaître Dieu d'abord et de savoir qui il est dans toute sa gloire, ça vient de lui, ça vient de Dieu en son Fils, par son Esprit Saint révélé en nous. C'est lui qui est notre sagesse, notre justice et notre piété. Le mot piété, là, signifie avoir une révérence pour Dieu. Autrement, on n'aurait aucune révérence pour lui. C'est de cela que l'apôtre Paul écrivait dans 1 Corinthiens chapitre 1, dans le verset 30 et 31, il dit, or, c'est par lui, c'est-à-dire c'est par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a aucun pécheur qui est l'objet de la grâce de Dieu qui va témoigner que c'est de lui-même qu'il est venu à Jésus-Christ et qu'il est en Jésus-Christ par sa décision, sa volonté ou quoi que ce soit. Non. La Bible est claire. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Par Dieu. Nul autre. Et puis, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Voilà la substitution. Si on était capable de nous-mêmes d'accomplir quoi que ce soit, donc Christ ne serait pas venu. Mais c'est effectivement parce qu'il n'y a aucun bien dans l'homme qui pourrait satisfaire à la justice et à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Christ a été fait pour nous, à notre place. Il s'agit de ceux-là pour qui Dieu a envoyé son Fils dans ce monde. Mais cette substitution comprend ces quatre parties, trois desquelles nous lisons ici, décrites par Paul à Tite. Premièrement, c'est écrit sagesse. La sagesse de Dieu accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Laissé à nous-mêmes, on ne saurait même pas savoir comment satisfaire à la justice de Dieu et sa sainteté. Donc, cette sagesse est en Jésus-Christ qui est venu et qui a accompli parfaitement la loi et la justice de Dieu, sachant exactement, étant Dieu lui-même, ce que la loi et la justice exigeaient. Non seulement dans la lettre, mais dans l'esprit de la loi. C'est lui qui est notre sagesse. Et ensuite, justice. Aucun pécheur ne peut être droit devant Dieu, parce que le mot justice signifie droiture. En dehors de cette justice que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a accomplie. Non seulement les préceptes de la loi, mais aussi la peine de la loi qui exigeait la mort. Voilà comment il est, le Dieu sauveur. Comment il a été fait pour nous, sagesse, justice. Et regardez bien, sanctification. Ça, c'est un enseignement aujourd'hui qui est complètement contraire à ce que dit la Bible, parce que c'est prêché que oui, c'est vrai, Christ a été fait pour les pécheurs, la justice de Dieu, il a satisfait la justice de Dieu, mais en ce qui concerne notre sanctification, le fait d'être mis à part à la sainteté de Dieu, voilà, ça c'est par nos efforts et notre dévotion, non? Même en cela, il a été fait sanctification. Il a lui-même dit ça dans sa prière, qu'il s'est sanctifié lui-même pour son peuple. Heureusement, parce que si notre salut dépendait même de la manière que nous nous sanctifions quotidiennement dans nos vies pour marcher dans une vie sainte devant Dieu, on aurait déjà échoué parce que nous sommes des pécheurs de nature. Je rends grâce à Dieu que même en cela, Christ a été fait pour nous sanctification et puis rédemption. Être racheté. Alors, ces quatre qualités sont aussi incluses ici dans Tite chapitre 2, le verset 12. Que c'est pour cela que Christ a été manifesté, manifesté en chair d'abord, mais aussi manifesté à travers l'Esprit de Dieu, à travers l'Évangile, en ceux pour qui il est venu. Et en attendant, maintenant dans le verset 13, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire à la fin des temps, lorsqu'il viendra de nouveau. Et quelle gloire ça serait si nous sommes encore en vie, que lorsque Christ revient, nous le verrons tel qu'il est. Et même si ce n'est pas à la fin des temps, beaucoup posent cette question, est-ce que Christ reviendra dans notre génération de nos jours? Je peux dire avec assurance que oui. Soit il viendra dans la mort pour prendre chacun de ceux qu'il a rachetés dans la mort. Ça aussi, c'est la manifestation de la gloire de Dieu, de nous prendre de ce monde, de nous prendre cette chair et que nous, à travers la mort, nous serons avec lui. Mais même si nous sommes encore en vie, quelle grandeur, quelle joie d'attendre, et c'est une attente. Ici, c'est appelé en attendant la bienheureuse espérance. La vérité que Christ revient n'est pas pour l'enfant de Dieu quelque chose qui doit l'effrayer. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette espérance et ils imaginent que lorsque Christ revient, Christ doit les trouver dans un état de sainteté. Et souvent, nous entendons prêcher cette doctrine de cette manière. Ah, il faut faire attention de ne pas être trouvé dans le péché. Nous portons le péché avec nous. Nous vivons dans le péché tous les jours parce que nous avons cette nature pécheresse. Alors, si telle était la réalité, je dois dire, aucun ne pouvait espérer et avoir cette espérance. Dans notre espérance, en attendant la bienheureuse espérance de la venue du Seigneur Jésus-Christ, est que, en tant que pécheur, Christ m'a déjà sauvé, m'a déjà racheté. Voilà le Dieu sauveur, que aucune partie de mon salut ne dépend de moi, mais le salut aussi comprend être dans cet état d'attente, étant déjà racheté, étant déjà justifié, étant déjà sanctifié en Christ, et d'être maintenant reçu auprès de Dieu pour l'éternité, grâce, non pas à moi, mais grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le verset 14 lié au verset 13 est si important de comprendre. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin que nous ayons cette attente bienheureuse, de la bienheureuse espérance. C'est grâce à ce qu'il a déjà accompli pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. C'est pourquoi il est venu la première fois. Et c'est exactement ce qu'il a accompli, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est vrai, nous pouvons être zélés pour les bonnes œuvres, c'est-à-dire ces œuvres de grâce qui ne font que honorer, comme c'est écrit dans le verset 10, la doctrine de Dieu notre Sauveur. Tout cela est dû déjà à ce que Christ a déjà accompli. Il s'est livré lui-même, c'est écrit là dans le verset 14. Et cela parce qu'il nous a aimés déjà. C'est pourquoi il s'est livré. L'amour de Dieu ne change point. Ce n'est pas qu'il m'aime aujourd'hui et demain, maintenant, il doit me rejeter. Non. Son amour est éternel comme l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi nous honorons ce Dieu sauveur parce qu'il ne change point. Et le fait qu'il a déjà donné sa vie et qu'il est déjà mort pour nos péchés signifie qu'il n'y a plus de condamnation. C'est dans cette espérance bienheureuse que nous attendons la manifestation de sa gloire, puisqu'il est le grand Dieu, même notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous nous reposons. Et qu'à travers sa vie et sa mort, il a déjà fait de ce peuple un peuple qui lui appartient. Nous ne faisons que découvrir qui est ce peuple en prêchant l'évangile clair et net de Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. Pas un Jésus qui veut bien sauver si l'homme le permet. Non. Mais un Dieu qui a déjà sauvé et qui reconnaît ce peuple déjà comme un peuple qui lui a été donné par son Père depuis l'éternité, et pour qui il a versé son sang. Donc, il n'y a plus de condamnation. Purifié par lui. Voilà encore, ce n'est pas se purifier en nous-mêmes, mais déjà purifié par lui, puisqu'il a déjà payé la dette. Et donc, zélé pour les bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? Oui, nous ne savons que Dieu seul est bon. Donc les bonnes œuvres sont les œuvres qui glorifient Dieu. Ce sont des œuvres qui, que par la grâce de Dieu, Dieu lui-même nous anime d'accomplir pour son honneur et pour sa gloire. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais c'est ce que Dieu fait à travers nous, afin que son nom soit glorifié en toutes choses. Ce n'est pas une bonne œuvre si l'homme se donne la gloire. Ce n'est pas une bonne œuvre si l'homme le fait de lui-même ou autre mobile, non. Les bonnes œuvres, zélées pour les bonnes œuvres, sont des œuvres à travers notre comportement, à travers notre parole, ce que nous disons, ce que nous témoignons, que Dieu seul reçoit toute la gloire. Alors c'est pour ça que Paul dit à Tite ici, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Pourquoi c'est nécessaire que nous annoncions ces choses et nous exhortons et nous reprenons avec toute autorité et que personne ne nous méprise? Premièrement, c'est parce qu'il y a toute une autre doctrine qui est enseignée dans ce monde. Et je dois dire que la majorité des gens qui se disent chrétiens prêchent un message qui est en quelque sorte une coopération entre Dieu et l'homme, que Dieu propose, mais c'est à l'homme maintenant d'accepter et de prendre la décision. C'est pourquoi nous devons insister de nouveau chaque fois que nous prêchons d'écrire, définir clairement que non, le Dieu de la Bible est le Dieu sauveur. Et il n'attend point à l'homme de fournir quoi que ce soit pour le sauver. Quel grand et glorieux Dieu il est comme le Dieu sauveur. Donc nous devons chaque fois insister là-dessus et clarifier, distinguer le Dieu de la Bible de ce petit Dieu qui n'est qu'un Dieu idolâtre que les gens adorent en majorité aujourd'hui. Si nous trouvons quelqu'un qui rend toute la gloire à Dieu dans le salut et qui déclare que ce n'est qu'à travers la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est, que cette, ce pécheur est justifié devant Dieu, sans contribution de sa part, voilà, quelqu'un en qui la grâce de Dieu a été manifestée. Mais nous ne devons pas avoir peur de déclarer ce message, même si le monde s'oppose. Ici, c'est écrit avec une pleine autorité. Nous ne sommes pas là pour prêcher des opinions, que voilà, ça c'est un point de vue, comme beaucoup me disent souvent quand ils m'entendent prêcher avec cette clarté, ils disent « Ah, mais ça c'est votre point de vue ». Non, c'est ce que déclarent les Écritures, et qu'à part ça, il n'y a pas de salut. Et voilà pourquoi les gens sont offensés, scandalisés, parce qu'ils disent « Ah, donc, vous êtes en train de dire que ceux sont perdus, qui ne voient pas Dieu de cette manière, mais il n'y a pas deux moyens. Manière de voir Dieu, il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Soit il a sauvé un peuple, ou bien il n'y a pas de salut. Soit Christ est venu accomplir tout ce qui est nécessaire, ou bien c'est laissé à l'homme maintenant et il n'y a aucun espoir dans un tel message. Mais nous avons besoin aussi, non seulement à cause de l'opposition du monde, mais nous avons besoin aussi nous-mêmes que ces choses soient répétées, que nous continuions à reprendre, à exhorter, à cause de notre nature pécheresse, quel que soit ce que nous disons, que nous comprenons, nous savons que cette chair allait facilement nous enduit dans l'erreur et nous amener à embrasser ce qui en fait renie Dieu dans toute sa gloire. Telle est notre nature. Donc nous avons besoin, tout en prêchant à d'autres, nous avons besoin d'entendre de nouveau ce message chaque fois et d'avoir ce message repris avec une pleine autorité chaque fois en nous-mêmes. Vous voyez combien, alors, est important ce message de la grâce de Dieu et du Dieu sauveur. Quel message merveilleux, non seulement en ce qui concerne la doctrine que nous embrassons, mais même en ce qui concerne notre conduite, que ce soit d'une manière à ne jamais être exposé au mépris. Et de donner raison à ce monde qui est ce Dieu déjà, d'avoir raison maintenant d'haïr, de l'haïr davantage, puisque en nous-mêmes, nous renions par notre conduite ce Dieu que nous annonçons et qui sauve. C'est pourquoi Paul dit à la fin du verset 15, que personne ne te méprise, que nous ne donnons aucune occasion à l'ennemi de nous mépriser, tout en annonçant la grâce de Dieu. Paul a dit la même chose à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Tout cela, c'est ce qui nous est donné en Christ. Alors, nous honorons, comme c'est écrit dans le verset 10 de notre texte, Tite 2, 10, que nous honorons en tout la doctrine, c'est ce que nous venons d'entendre, de Dieu, notre Sauveur, que son nom soit béni. Amen.